What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No, no.
Not wounded, sir.
Get
it's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Menose fattissimo. Proprio fattissimo.
Et voilà, ce sont toujours les mêmes notes sautillantes de la comédie italienne et puis quelques dialogues savoureux qui nous font arriver tout doucement sur la pointe des pieds dans Cinémascope cette semaine encore pour évidemment parler de ce qui passe sur les grands écrans albenaciens et sud ardéchois. Sophie et se soigne. Et donc nous sommes en phase encore de recomposition ici pour Cinémascope avec votre serviteur et heureusement Didier.
Bonjour. Hey, bonjour.
Voilà. Nous avons un petit menu tout de même.
Et nous avons aussi nos techniciens.
Ah oui, Sylvain.
On va pas les oublier. Bonjour. Sylvain assisté de Clara, là, je crois, en ce moment, non ?
Oui, non.
Oui, c'est ça. Voilà.
Voilà. Et Clara est là aussi, donc je suis un ingrat. Voilà. Le mal est à peu près réparé. Trois films au menu. L'Homme d'argile d'Anaïs Tellen qui passera mardi 16 avril à Thwaites. Et donc, on a de la chance, Didier l'a vu, donc on va pouvoir en parler. Nous parlerons aussi, Didier, d'Une famille, de Christine Angot, documentaire visible à Aubenas. Et puis je vous dirai deux mots de Pas de vague, le film... avec François Civil, c'est un peu le teaser pour ce film que j'ai été voir évidemment avec un regard un peu particulier étant donné que j'ai quand même enseigné pendant 34 ans. Donc voilà, ça me donne aucune légitimité particulière pour parler de ce film, mais en fait tout de même du ressenti. Nous commençons sans plus de préliminaires par L'Homme d'argile, donc, que tu as vu, Didier.
Oui, c'est un film rare. C'est vraiment un film rare. Alors, d'une part, très, très à ras de terre, si je veux dire, parce qu'il est sorti il y a quelques semaines, il n'a pas eu de succès, il est passé très, très vite. Et après, c'est un film rare, en particulier par son interprétation. Alors, c'est le premier long métrage de Anaïs Tellen. Mais elle a fait trois courts-métrages auparavant, et c'est important parce qu'elle a fait trois courts-métrages avec l'acteur principal du film, qui s'appelle Raphaël Thiry, et qui est un personnage tout droit sorti d'un conte gothique, mais dans la vraie vie, quoi. C'est-à-dire c'est une sorte de géant avec une trogne absolument incroyable, qui est borgne, et qui, malgré tout, a réussi à faire une carrière d'acteur. Ce qui est assez incroyable. Alors, au théâtre, déjà, et puis au cinéma, dans des petits rôles. On l'a vu notamment quand même chez Alain Guiraudy, et puis récemment, dans un petit rôle également, dans Les pauvres créatures de Yorgos Lanthimos. Dans le film, Raphaël Thiry s'appelle Raphaël. Il incarne le gardien d'un manoir désert avec son physique absolument hors norme. Et il a l'habitude le soir d'aller jouer de la cornemuse sur la lande, et je pense que si on le croise en train de jouer de la cornemuse à la nuit tombée, on fait vraiment demi-tour très très vite, quoi. Voilà. Donc il vit dans un pavillon à l'entrée du domaine, comme ça se fait beaucoup, avec sa mère. Il approche de la soixantaine et sa vie est très très calme. Ça se partage entre l'entretien du domaine, en particulier la chasse aux taupes qu'il aime bien, jouer de la cornemuse le soir et coucher occasionnellement avec la postière qui a un faible pour les fortes carrures, on va dire.
Voilà. C'est intéressant.
Voilà. Et cette vie, somme toute relativement calme et bien rangée, va être complètement bouleversée par l'arrivée tout à fait inattendu, en pleine nuit, de l'héritière du domaine, qui est interprétée par Emmanuelle De Vos.
Voilà, j'avais vu à la distribution,
voilà,
effectivement.
Qui est une artiste plastique reconnue, et qui, fasciné par ce personnage, qui va être fasciné par ce personnage, qui va devenir une source d'inspiration, voire un petit peu plus. Voilà, donc c'est
une... je comprends quand tu parles de film un peu original, un peu...
Tout à fait. Alors, et si la star, entre guillemets, commerciale, demeure évidemment Emmanuel De Vos, que tout le monde connaît, le personnage qui ressort du film est bel et bien Raphaël, que la réalisatrice, je disais, connaît bien, puisqu'elle a déjà tourné 3 courts-métrages avec lui. Et elle a eu cette intelligence de mélanger des éléments biographiques de ce personnage avec son scénario. Donc Raphaël Thiry est un vrai joueur de cornemuse. Le film est tourné dans le Morvan où il habite. Ils ont cherché les décors ensemble. Et donc, au bout du compte, on a... Moi, ça m'a fait penser à une sorte de remake assez lointain, mais remake quand même de La Belle et la Bête, avec un format image très particulier, le format 1.5, que moi, j'ai rarement vu au cinéma. C'est un peu un format carte postale ancien temps, là. C'est tout à fait particulier. Et c'est à la fois un conte gothique, dans un manoir, château, un peu étrange, avec aussi une réflexion sur la création, ouais. Et puis aussi pour ce personnage, la découverte qu'il y a quelque chose qui se passe ailleurs, d'une autre vie, qu'il aurait aussi pu être quelqu'un d'autre. Et le film, finalement... Alors, évidemment, on a le personnage de cet artiste qui est là, qui est tout à fait intéressant et tout, mais le film est quand même entièrement bâti autour du personnage de ce Frankenstein, qui est assez extraordinaire. Alors, je voudrais finir par, justement, je trouve qu'elle explique très très bien un petit texte de la réalisatrice qui explique un peu ça. Elle dit « Si dans la réalité, Raphaël est plus extraverti que son personnage dans le film, je me suis néanmoins inspiré de certains aspects de son existence pour construire ce conte. Borgne et doté d'un physique hors norme, il a appris à vivre en ayant l'habitude de la condescendance, du rejet et de la méfiance. » Ça, c'est dans la vraie vie.
Dans la vraie vie.
« Il a longtemps partagé son temps entre ses activités de garde forestier, sa compagnie de théâtre et le groupe de musique traditionnelle dans lequel il jouait la cornemuse, jusqu'à ce qu'un jour, Alain Guiraudy le révèle dans « Rester vertical ». Faisant de sa tronche atypique un atout, le cinéma a changé les regards sur lui. Cette expérience m'a fasciné, car elle met en lumière une problématique que nous avons tous en nous, celle du pouvoir du regard de l'autre. Comment nous façonne-t-il ? Et surtout, comment un seul regard peut-il suffire à nous transformer ou nous libérer ? Cette question est l'enjeu de l'homme d'argile. Et je trouve que c'est relativement bien résumé.
Oui.
Et j'espère que ça a donné envie d'aller voir ce film, qui est un film rare.
Ben, à moi, oui. Et puis, donc, cette idée, effectivement, du regard des autres qui nous façonne et fascine, oui. J'allais faire.
Aussi.
Voilà, oui. Et qui fait de nous, finalement, des hommes d'argile qui sont façonnés par le regard des autres. C'est intéressant de voir aussi comme on est façonné par ce qu'on regarde. C'est-à-dire que il y a aussi cette dimension-là. En t'écoutant, Didier, j'avais une petite question qui n'est pas une question people, qui est vraiment une question de cinéphile. J'aime beaucoup Emmanuelle De Vos. Je trouve que c'est une actrice importante dans le cinéma français. Et je voulais savoir, parce que le titre du film, ça paraît tellement centré sur l'homme d'argile et puis sur la personnalité de Raphaël Thiry. Je me demandais si Emmanuelle De Vos arrivait à tirer son épingle du jeu.
Tout à fait, parce que c'est aussi, j'en ai pas trop parlé là, mais c'est aussi un personnage, donc c'est une artiste contemporaine, avec tout ce que ça peut comporter d'excès. C'est aussi quelqu'un qui a vécu des choses, on ne sait pas trop, mais quand elle arrive, elle est dans un très très sale état. Il y a des, elle va pas bien du tout, et cette espèce de fascination qu'elle a pour ce personnage, qui va devenir un modèle quelque part, elle sait très très bien le concrétiser dans son personnage, et on peut remarquer que c'était quand même un pari un peu risqué pour une actrice de son niveau, d'aller tourner un premier film sur une thématique quand même un peu hasardeuse,
c'est
un peu particulière,
en tête quand je t'ai posé,
voilà, tout à fait, et ça ne fait qu'ajouter à l'estime qu'on peut avoir pour elle.
Ouais, super. Donc, un personnage donc, joué par Emmanuelle Dehaus qui, vraisemblablement, a, elle, été façonnée par ce qu'elle a vu, un peu.
Absolument, absolument.
Voilà. Donc, on a un peu cette... Ben, ça donne bien envie. Ça donne bien.
Ben, j'espère, le film est à Tueil, hein, je crois. C'est ça.
Oui,
donc,
mardi.
Il y a eu une seule séance, donc il ne faut pas la rater.
Il ne faut pas la rater. C'est mardi, 16 avril. Donc, mardi qui vient, à 20h30, à Tueil. C'est un bel endroit, en plus.
Tout à fait. Une vraie salle de cinéma.
Voilà, tout à fait. Qui donne vraiment cette belle sensation d'être au cinéma et d'avoir pour soi le grand écran. Tout à fait. Alors, de mon côté, j'ai été au cinéma aussi. C'est pas une punition, hein. J'ai donc été voir Pas de vague, un film de Teddy Lucie Modeste. Je me demande si c'est pas son premier d'ailleurs. Je ne sais pas. Je vais pas être affirmatif. Un film pas trop long. Et je dois dire qu'avant d'aller le voir, je craignais un peu. On en a déjà parlé ensemble, Didier, à ce micro. Je craignais un peu de me retrouver devant un film fait pour la télé, un petit peu, avec on cache toutes les cases du politiquement correct, et puis on avance tout doucement, et puis on se donne quand même un acteur célèbre pour que ça fasse vraiment un film de cinéma, et puis on passe en salle, donc on a le label cinéma.
Puis on filme proprement, mais pas plus.
C'est ça, exactement.
Beaucoup de films comme ça correspondent à cette définition.
J'ai un souvenir douloureux de l'année dernière où je m'en étais quand même enfilé 4 ou 5 d'affilée et ça devenait un petit peu pénible.
C'est plus facile à trouver que les très bons films.
Alors, je ne m'en... Oui, bon, ben, c'est possible. Statistiquement, il y a des chances. En tout cas, c'est pas l'impression que ça m'a fait du tout. François Civil incarne donc un professeur de français en collège, un collège... pas facile, et il fait beaucoup, il s'investit beaucoup pour ses élèves, à tel point d'ailleurs qu'il se met dans une situation de qui peut passer pour du favoritisme à l'égard des élèves qui font des efforts dans sa classe par rapport à ceux qui en feraient moins, enfin, etc. Ça reste très, 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 très clean, mais...
Aurait-il inventé les classes de niveau ?
Non, pas du tout. Il a plutôt réinventé la relation un peu plus personnelle que celle figée qui nous est un peu imposée par l'éducation nationale, si vous voulez. Ça déborde un tout petit peu du côté de... si on voulait aller loin, mais il faudrait aller loin... peut-être le cercle des poètes disparus, vous voyez. C'est un prof qui veut faire beaucoup pour sortir les élèves d'une situation d'inculture et de pauvreté dans laquelle ils sont. Voilà. Donc rien que de l'estimable, malheureusement, il est accusé à un moment donné de vouloir séduire une de ses élèves, très jeune, hein, on est en quatrième, et évidemment, ça met le feu aux poudres, je ne vous fais pas un dessin, c'est-à-dire toutes les alarmes s'allument, l'administration, les parents d'élèves, la classe, l'élève, le père de la gamine soi-disant séduite, et donc on se retrouve dans une situation extrêmement chaude, extrêmement tendue, et... on apprend en regardant la presse que cette situation, ben, le réalisateur Teddy Lucie Modeste donc l'a vécu puisqu'il a été lui-même professeur de français à Aubervilliers dans une zone pas exactement simple pour enseigner Ronsard et Victor Hugo. Encore une fois, je craignais un peu le film de télé. Je craignais aussi, je l'ai dit, le film où on caresserait un petit peu tous les animaux dans le sens du poil. Et en fait, pas du tout. Je pense qu'il y a une volonté de la part de Teddy Lucie Modeste de faire part de son expérience, de la... profonde douleur dans laquelle cette expérience l'a mise. Je rappelle donc être injustement accusé de vouloir séduire une de ses élèves. L'accusation est quand même très grave et l'injustice d'autant plus grande quand c'est pas vrai. Donc effectivement, on est dans cette situation-là et le réalisateur qui donc l'aurait vécu jusqu'à être lui le réalisateur dans la vie réelle, il a été innocenté finalement. dans le film, on ne prend pas de parti de ce point de vue-là, donc je ne peux rien divulgâcher, on ne divulgâche rien. Voilà. Donc c'est le film. Et alors, ce que j'ai, moi, apprécié, c'est cette façon de se donner les moyens de son propos. C'est-à-dire que ce soit la lumière variable, on a des variables. Un nuage passe dans le ciel, la lumière change légèrement dans la salle de classe. La lumière est parfois saturée, parfois on est dans une semi-obscurité. Donc on a une lumière qui est gérée déjà un petit peu comme elle peut être gérée dans un thriller, par exemple. Hein. On a un montage aussi extrêmement adroit, qui permet de donner à certaines scènes une intensité particulière, en particulier je pense à la scène où il se décide enfin à sortir vers l'arrière du collège pour ne pas être obligé de sortir à l'avant, où peut-être il serait attendu par des gens qui lui voudraient du mal. Donc on a la scène est filmée très brièvement, un court plan séquence avec une lumière saturée blanche. C'est très intéressant. Le cadrage également, parfois on est cadré très près du personnage, du prof, des élèves. Le cadrage aussi sur la classe, qui permet de bien rendre compte du fait qu'une classe, c'est un personnage. Il y a plusieurs personnages dans une classe, mais tous les personnages d'une classe ensemble forment un autre personnage qui est la classe. Et là, il a réussi vraiment un truc extraordinaire. Encore une fois, depuis mon expérience d'enseignant, vraiment cette sensation d'être dans une classe dans laquelle il faut gérer les différents parties comme si elles étaient les différents organes d'un même organisme. Hein. C'est de la haute voltige parfois ce métier, faut quand même admettre. Donc tout ça est extrêmement bien mobilisé pour faire le film qu'il veut faire, avec en plus, j'ai malheureusement pas noté le nom du compositeur, mais une musique qui souligne extrêmement bien les différents moments de l'histoire. Donc vraiment, moi, une excellente surprise. J'ai vu ce film à côté d'une collègue qui donc a eu la même excellente surprise. Je ne serais donc trop invité à aller voir pour une raison. C'est notre ami René qui parle souvent de films utiles, n'est-ce pas ? Ben oui, mais je serais tenté de dire film utile parce que il y a dans le métier de professeur un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a le métier le plus public qui soit. On est en permanence en contact du public, c'est-à-dire évidemment nos élèves, les parents d'élèves, nos collègues, les profs, dans la salle des profs, la fameuse salle des profs dont il a été question au cinéma il n'y a pas si longtemps, l'administration, pléthorique, hein, ça va du proviseur au recteur en passant par tous les surveillants, enfin, ça fait énormément de monde, ça fait une foule colossale, mais les profs, dans notre exercice, nous sommes seuls. On ne fait pas plus seul qu'un prof, comme un acteur. Qui arrive, qui sort de sa loge, qui voilà, et puis quand il retourne dans sa loge, il y est tout seul, et puis quand il part de sa loge et qu'il rentre chez lui, il est encore plus seul. Personnellement, j'ai toujours eu besoin de sas, hein, pour passer d'un public à l'autre, parce qu'il y a un moment comme ça où on est perché, on sait pas où. Et alors évidemment, quand vous êtes dans cet état de solitude extrême, et que vous vous rendez compte, on parlait du regard des autres, que vous vous rendez compte que vous êtes regardé comme quelqu'un de passé 30 ans qui essaye de séduire une gamine de 13, effectivement, c'est rien de dire que c'est pas agréable. Et cette ambiance qui confine finalement, de thriller, hein, je parlais, hein, mais cette ambiance qui confine à celle de cauchemar est exactement... comment dirais-je, le film rend compte de cette atmosphère de cauchemar qu'on peut effectivement vivre quand on se retrouve dans la situation de ce professeur. Donc, bon, c'est ce qu'on demande au cinéma, je crois. Donc, effectivement, ça a été pour moi à la fois une expérience, effectivement, pour le cinéphile, mais une expérience aussi pour le citoyen et l'humain, et accessoirement l'ancien prof. C'est pas vraiment la question. Voilà.
Alors, je ne l'ai pas encore vu, mais j'irai pour toutes ces raisons, pour toutes les raisons que tu as données. Et je trouve que c'est important que ce film existe parce que, avec tout ce qui se passe actuellement, j'ai peur qu'à un moment, on assiste à une espèce d'épidémie de dénonciation comme ça. On a vu ce qui s'est passé là très récemment avec les alertes à la bombe dans les collèges et les lycées. Bon, c'est très facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les téléphones, etc. et tout. Et je me demande si demain, on n'aura pas des gamins qui, parce qu'ils ont eu une mauvaise note, qui, parce qu'ils n'aiment pas le prof, qui, parce que, etc., etc., vont aller raconter sur les réseaux sociaux, ce genre de fadaise, voilà. Ouais. Ce qui est très compliqué parce que il y a aussi effectivement des choses qui existent réellement. Donc c'est comment ça. On va pouvoir faire la part des choses et en tout cas pour moi ça remet sur le tapis cette question de la condamnation sans jugement. Ouais. Et qui est terrible. Et après, juste pour revenir au cinéma, ça renvoie, enfin moi ça me renvoie beaucoup au film qui avait eu un grand succès à l'époque, le film de Kayat avec Jacques Brel, Les risques du métier.
Les risques du métier,
qui avait cette thématique. Et je crois que c'est intéressant de rappeler ce film parce qu'on se dit oui, oh, dans les années 70, tout ça c'était reconnu comme étant normal, etc., etc. Et donc on voit à travers ce film qu'il y avait quand même des problèmes et que quand même la société était avait quand même des garde-fous par rapport aux exagérations.
Oui, j'arrête pas de faire oui devant Didier, je vais bientôt me démettre la tête, je crois que non, mais parce que il dit exactement ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut du discernement, il faut faire le tri entre ce qui se passe et ce qui se passe pas, et puis effectivement, on n'est pas devant un problème qu'on découvre là tout à fait par hasard. Je sais juste peut-être un peu amplifié par cette atmosphère un peu de société de consommation dans laquelle on est et où on consomme de la mauvaise nouvelle, de la bonne nouvelle un petit peu indifféremment, indistinctement et puis les...
Et où l'information circule dans tous les sens.
Voilà, et si vous êtes pris dans ce rouleau compresseur, vous comme individu, eh ben, vous pouvez dire adieu à votre paix intérieure. Voilà, en gros, en résumé. On n'est pas très très loin hein, de là, finalement, avec parce que là c'est vrai, tout est vrai, c'est un documentaire, c'est une famille, c'est un documentaire de Christine Angot qu'évidemment les lecteurs, alors pour l'instant ni Didier ni moi, mais enfin bon, elle a eu quand même un certain succès de librairie, c'est paraît-il quand même une écriture, Christine Angot. C'est aussi une malheureuse, évidemment, une très très malheureuse expérience d'inceste qu'elle a écrite, hein, cette expérience dans un livre, dans plusieurs livres, et qu'elle met à l'écran sous forme documentaire. Alors là, je te laisse la parole, Didier, parce que je n'ai pas encore vu ce documentaire.
Oui, mais c'est un film très très intéressant. Alors c'est vrai que moi, dans un premier temps, j'avais pas trop envie d'aller le voir. Parce que j'avais lu le synopsis, j'avais lu des interviews, donc on sait hein, que c'est Christine Angot avec la chef-op très très connue Caroline Champetier, avec des petites caméras légères qui va retrouver un certain nombre de personnages de sa famille pour leur poser des questions sur l'inceste qu'elle a vécu pendant des années et des années. Et je me disais, encore une fois, on va avoir un film avec l'image tremblée, la caméra épaule, donc sur un sujet très intéressant. Mais est-ce que ce genre de film ne serait peut-être pas mieux cantonné sur un écran de télévision quoi. Et ben là, pas du tout. J'y suis allé et j'ai bien fait parce que je pense que ce film, alors qui effectivement n'est pas un grand film de cinéma, ça va pas révolutionner l'industrie et l'art cinématographique, mais je pense que ce film est très intéressant à voir en commun. avec une audience, de ne pas être tout seul devant un écran pour le voir et de partager ça, parce que bon, d'une part, c'est relativement difficile et que ça touche. Enfin, c'est vraiment un problème à travers cette histoire-là, c'est un problème de société qui est posé là. Et je suis assez heureux, en fait, d'avoir fait le choix d'aller le voir parce que c'est ce qu'il fallait faire. Donc, on peut juste rappeler qu'à 13 ans, Christine Angot rencontre à Strasbourg pour la première fois le père qu'elle ne connaissait pas, et que dans la foulée elle va être violée une première fois par ce père et va débuter une histoire d'inceste qui va durer pendant des années et des années, dont elle ne s'est jamais remise et qu'elle va raconter et disséquer dans ses différents livres. Elle a aujourd'hui 65 ans, elle revient à Strasbourg pour des raisons littéraires, hein, je crois que c'est pour des signatures, voilà, et elle décide, avec sa chef-op Caroline Champetier, dans un premier temps, d'aller voir la femme de son père, donc avec qu'elle connaissait très bien à l'époque, et de lui demander des explications, tout simplement. Et là, on assiste à un moment de cinéma que moi j'avais jamais vu, c'est-à-dire que elle frappe à la porte, elle sait pas du tout où elle va, ce qu'elle va faire, ce qu'elle va dire, elle est dans un état émotionnel incroyable, et comme on dit, elle met le pied dans la porte, c'est-à-dire qu'elle force carrément l'entrée, et elle va dire ce qu'elle a à dire à cette femme qui, a priori, n'a pas du tout envie de parler de ça, et qui commence par lui dire « Oh, Christine, tu me fais de la peine. » Alors, c'est un peu le monde à l'envers, quoi. C'est
incroyable.
Et après cette rencontre compliquée, elle va retrouver un certain nombre de personnages, son ancien mari, sa mère, sa fille, et essayer de disséquer cette histoire avec les gens qui l'ont vécu avec elle, de près ou de loin. C'est un film, si on a des doutes sur ce qu'on peut penser de l'inceste, des choses comme ça, quand on sort du film, on n'a pas de doute. C'est une action qui ravage et qui, à la 65 ans aujourd'hui, s'en est pas remise, elle s'en remettra jamais. C'est vraiment en même temps un film à vif sur la libération de la parole, mais qui ne va pas clore la souffrance qu'elle ressent. Et il y a un passage dans ce film qui m'a donné envie, mais vraiment, de vomir. C'est un extrait d'une émission télé de cet horrible personnage que j'ai jamais pu supporter, qui s'appelle Thierry Ardisson, avec son collègue Baffy, qui ont invité Christine Angot, je crois que c'était pour la sortie de son premier livre, et c'est une séance d'humiliation, de moquerie, mais c'est inimaginable comment... J'ose espérer qu'aujourd'hui, si ça se produisait, la chaîne licencierait sur le... Mais j'en suis pas sûr, malheureusement. Quoi.
Je crois pas, non.
Mais c'est vraiment...
Ce qui se passe chez Cyril Hanouna ou ailleurs.
C'est du même niveau, mais je crois que c'est encore plus puissant, la façon dont ces deux animateurs, avec leur petite blonde à côté, la détruisent littéralement. Quoi. Mais il faut le voir pour le croire. Ouais. Voilà.
Moi, j'ai été, on en parlait un petit peu au micro, donc je suis très à l'aise, je te fais pas une surprise. Mais effectivement, pour avoir travaillé sur les violences faites aux enfants il y a quelques mois maintenant, on est quand même surpris de voir l'atmosphère qui environne l'inceste. Le juge Durand avait dirigé la CIVIS pendant un moment, la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants. Donc il a fait 30 000 auditions. Et puis, une fois que ces auditions ont été faites, on lui a fait comprendre que c'était mieux qu'il s'en aille. Il n'y a pratiquement eu aucune suite. La sous-directrice de la commission a été ensuite accusée de harcèlement. Elle est pédiatre, c'est un peu gênant. Et donc, elle a donné sa démission, effectivement. Et puis là, on essaye de la reconstituer. Donc, il y a un groupe de 4 personnes, un élu, enfin, un spécialiste, etc., qui sont censés, donc, faire ressusciter cette CIVIS. Mais vu de chez moi, là, cette résurrection, elle me paraît assez factice, et je pense pas du tout qu'on aura l'efficacité qu'avait donc eu le juge Durand de l'aveu de tout le monde, hein, qu'on soit bien clair. Donc, l'inceste, pour aller directement à cette question, sans généraliser, on a l'impression que soit on le tait, hein, soit quand il apparaît, on le dissout. Alors on peut le dissoudre comme on dissout une commission, ou alors on peut le dissoudre dans le rire un peu foireux d'intellectuel de la télévision, quoi.
Oh, d'intellectuel, oui, c'est, un, c'est un trop fort, un compliment un peu trop fort. Non, ce qui apparaît aussi dans le film de Christine Angot, c'est ça, c'est un inceste, c'est un viol, mais c'est un viol qui n'est pas commis par n'importe qui. Ouais. Et Christine Angot, elle recherche un père. Et ce père qu'elle recherchait, qu'elle a connu à 13 ans, il faut imaginer ça aussi. Donc une gamine de 13 ans qui n'a pas connu son père, forcément, elle va travailler, elle va l'imaginer. Et la première chose qui lui arrive, c'est ça. Enfin, c'est comment peut-on se remettre
Pas. Ouais, effectivement, quand dans la préparation des émissions dont je parlais, j'avais lu Boris Cyrulnik, hein, Le vilain petit canard, où il explique, lui, alors, bon, on peut peut-être finir sur une note optimiste, parce que Boris Cyrulnik, qui est un petit peu le spécialiste de ces questions, il croit beaucoup en la réparation. Il pense que si une personne, à n'importe quel âge, hein, est mise dans de bonnes conditions de dialogue, dans de bonnes conditions, etc., on peut réparer beaucoup de choses. Alors, on va espérer peut-être qu'effectivement la réparation est possible, mais il faut réunir beaucoup beaucoup de conditions pour qu'une telle réparation,
oui,
d'un
ce
individu...
Qui, ce qui n'est pas du tout le cas, là, dans le cas de Christine Angot, c'est presque le contraire.
Voilà, c'est ça. On va se laisser aller au cinéma toute la semaine qui vient.
On a le temps pour une petite virgule. On a le temps, oui.
On a le temps, et c'est, voilà, ça donne une idée de ma mémoire, de l'état de ma mémoire en ce moment.
Voilà, non, je voulais juste signaler que bon, le cinéma, c'est ce qu'il y a de mieux, on est tous d'accord, mais qu'aujourd'hui, on a d'autres moyens aussi. On a des plateformes, donc là, je ne parle pas de Netflix et compagnie, je parle plus particulièrement de la plateforme Arte.tv, donc qui est une mine en même temps que la plateforme France Télévisions aussi, hein, qui est une mine de films de fiction, de documentaires, d'émissions, enfin, etc., etc. Et actuellement, sur le mois d'avril, nous sommes en avril, sur la plateforme Arte.tv, il y a une petite rétrospective des films de Roy Anderson. Et ça, je tenais à le signaler parce que c'est un réalisateur suédois, rare, qui a fait sa carrière dans le film de publicitaire, comme seuls les gens du Nord savent le faire, et qui, avec l'argent qu'il gagne, bâtit tranquillement ses films. Donc il bâtit ses décors, sont de très longs plans séquences, sur des histoires tellement désespérées, mais avec tellement d'humour noir que ça en devient surréaliste. Et voilà, donc je crois qu'on peut voir là trois films, et peut-être d'autres qui vont arriver. Je sais que moi, personnellement, mon préféré, c'est les chansons du deuxième étage. Mais ils sont tous tout à fait intéressants, et je pense que comme les représentations des films de Roy Anderson sur grand écran sont quand même très très rares, et qu'il sort un film à peu près tous les 10 ans ou 12 ans, ben c'est l'occasion de revoir ou de découvrir ce réalisateur tout à fait hors norme également.
Ouais, merci Didier, excuse-moi, j'avais oublié que pourtant tu m'avais dit que nous parlerions de Arte.tv, parce que nous pensons qu'entre le petit écran et le grand, il peut y avoir synergie.
Absolument.
Et non pas nécessairement conflit. Voilà. À la semaine prochaine et bon film.